Françoise Vergès, titulaire de la chaire Global South dans ce collège d'études mondiales, chaire avec laquelle nous avons conçu cette séance.
À partir d'un besoin vital de l'être humain et qui est rendu difficile, entravé, quand il s'agit d'un étranger migrant. Je ne vais pas problématiser. Et donc de ce besoin vital qui est de trouver un endroit où poser sa tête. Et qui a le droit d'avoir un tel endroit et qui n'a pas ce droit, qui ce droit est refusé. Je pensais à la lecture d'un ouvrage « Rien où poser ma tête » de Françoise Frankel, qui est une jeune juive polonaise qui ouvre à Berlin dans les années 30 la première librairie française et qui est contrainte de fuir l'Allemagne en 1939. Et l'attend en France une vie de fugitive jusqu'en 1943 quand elle parvient à passer la frontière avec la Suisse. D'ailleurs, on perd ensuite sa trace. Et elle parle justement de comment elle passe son temps à fuir. Et là, je cite un extrait. « Agents et gendarmes faisaient la chasse avec une adresse et une activité infatigables. Ils exécutaient les ordonnances de Vichy fermement, inexorablement. Chez ces hommes asservis, la colère amassée par suite de la défaite était violente. Ils paraissaient vouloir la dépenser contre de plus malheureux et de plus faibles qu'eux. » Donc, ça me faisait penser aujourd'hui à la manière aussi dont la police agit en France. Et donc ce qui m'a frappé en lisant cet ouvrage, c'était de la recherche constante d'un endroit où se reposer, où s'endormir en toute sécurité, et où on ne s'endormait pas donc par épuisement, mais parce qu'on se sentait en sécurité. Et j'ai pensé à ce besoin absolument vital, quoi, ce besoin extrêmement important, et en suivant Françoise Frankel dans sa quête, on mesure l'importance pour le corps et le psychisme de ce repos paisible. Frankel raconte les mille ruses utilisées pour survivre, comment elle est épuisée, elle rencontre aussi la tristesse d'enfants orphelins, la lâcheté, le conformisme, l'indifférence et les gestes de solidarité concrètes, réels, qui la bouleversent, c'est-à-dire de lui offrir l'endroit où poser sa tête. C'est-à-dire où elle peut poser sa tête en toute tranquillité et dormir quelques heures sans avoir peur quand l'on frappe à sa porte. Et je pensais à ça justement dans un moment où aujourd'hui, on a été plusieurs en parler, la solidarité est confrontée à sa criminalisation, sa propre criminalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, d'offrir à quelqu'un un endroit pour poser sa tête devient un crime. Or, c'est vraiment le geste, je trouve, de solidarité, la première, ou d'offrir un verre d'eau à l'étranger. Et comment on fabrique donc ce consentement à l'indifférence au malheur? Dans le livre de Frankel, on lui loue parfois une chambre et on sait qu'elle est juive, donc on lui retire de l'argent, là, mais sans méchanceté plus que ça, mais enfin en profitant de la situation. Et donc, et puis dans d'autres moments, des personnes l'aident. Et cette question là de poser sa tête me semblait extrêmement importante. Et comment aujourd'hui, donc on privatise l'espace public, on police la terre entièrement, c'est-à-dire il n'y a plus d'endroit où se reposer. Et alors évidemment la terre solide, le sol, mais aussi les mers et les océans, comment effectivement on meurt à Mayotte, en Méditerranée, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit où se reposer, puisque sur la mer aussi, la police surveille et vous poursuit pour vous jeter à la mer et pour que vous noyiez et mourir. Donc comment effectivement à la fois on canalise cette mobilité et on empêche une certaine immobilité importante pour le corps et le psychisme. Et alors évidemment cette question de mobilité-immobilité répond à la vieille question du capital et de l'État-nation. Le capital a besoin à la fois d'immobiliser et qu'il y ait de la mobilité. Il a besoin que les gens soient immobilisés, bon, alors, je sais pas, je prends une image autour des usines, quoi, et puis en même temps des travailleurs migrants, parce que quand même ça fait de la main-d'œuvre, pas très bon, vraiment, ça c'est vraiment le béaba. Donc, évidemment, le capital et l'État-nation ne répondent pas de manière similaire, mais leurs réponses se croisent pour effectivement céder l'un l'autre à immobiliser et à rendre mobile. Évidemment, dans la mobilité, il y a des politiques différentes selon on appartient à une telle classe sociale, c'est absolument évident. Et donc, qui a le droit aussi de circuler en ayant le droit de se reposer? Et qui doit circuler en n'ayant jamais le droit de se reposer? Qui n'a le droit que de bouger? Et donc la mobilité aussi, parfois comme injonction, ce qui n'est pas non plus peut-être sans faire écho à ce que Yala disait, c'est-à-dire comme injonction, c'est-à-dire qu'il faut, la mobilité serait une manière d'être absolument romantique, etc. Et d'ailleurs, je pensais donc à une autre phrase de Frankel, quand elle finit par pouvoir passer la frontière avec la Suisse et qu'elle est complètement soulagée, et elle écrit « La tristesse de devoir franchir ses frontières en fraude comme une malfaitrice m'envahissait ». C'est-à-dire qu'en fait, là où elle devrait être soulagée, elle trouve que vraiment, donc il y a cette question justement de ne pas idéaliser cette question de mobilité de frontières. Donc de repenser pour moi la mobilité et l'immobilité en dehors des contraintes du capital et de l'État-nation, et donc non pas la libre circulation basée sur l'idéologie du libre marché, mais en tenant compte de ces cartographies imposées par les visas, les frontières, les passeports et les douanes d'une part, et d'autre part le besoin d'un endroit où poser sa tête, et le besoin d'un endroit sa tête réclame effectivement une certaine immobilité, un certain repos. Et d'ailleurs, dans beaucoup de récits de migrants réfugiés, ce moment où ils peuvent à un moment, pendant 2-3 jours, se poser, et ce sont souvent des moments extrêmement importants dans ce trajet. Donc même quand on parle de constante mobilité, on ne tient pas compte de ces moments où finalement, bon, qui sont nécessaires, non seulement nécessaires, mais qui sont aussi pas simplement nécessaire au corps, au sens physique du terme, mais au sens psychique, c'est-à-dire un moment de se dire que je n'ai pas échappé à l'espèce humaine complètement, je ne suis pas donc en train de, dans une constante errance. Et ma deuxième lecture, parce que donc il y avait deux choses qui m'avaient, que fait-on l'étranger aujourd'hui, vous pensez, c'était un article, hein, bon là donc, il y a cet ouvrage de François Frankel, et puis c'est un article où était décrit une chose que font les CRS, le garde mobile à Calais, dans leur harcèlement de migrants, c'est d'uriner sur les sacs de couchage, après avoir chassé les personnes. Donc peu importe si cette pratique est réellement générale ou qu'elle est exceptionnelle, ça c'est pas très important pour ce qui est... Ce qui m'a intéressé, c'est ce geste par lequel non seulement évidemment la police humilie, mais elle rend impossible le fait de poser sa tête de nouveau dans ce sac de couchage, dans cet endroit de dormir qui est absolument en fait bon, très fragile, mais qui est quand même un endroit à soi, même aussi précaire, c'est un petit endroit à soi. Donc comment... Et d'ailleurs, chaque jour, là près de là où j'habite dans le 11e, je vois, alors justement, je pensais à toutes ces images quand même de personnes qui dorment, de pouvoir dormir, de trouver du repos, de trouver une place où poser sa tête et d'avoir nul endroit où poser sa tête. Et sur le boulevard Richard Bleuard, à côté où j'habite, là sur la place centrale, très souvent le matin, je vois des familles entières de Roms qui dorment sur des matelas et tous ensemble, plusieurs sur un matelas, avec les enfants entre. Et il y a un côté, avec les gens qui passent à vélo, tout ça, qui partent au boulot, et il y a un côté à la fois tout à fait paisible d'un sommeil, malgré toute cette agitation autour, et qui est à la fois, on se dit, mon Dieu, c'est terrible, ils dorment dehors, et puis en même temps, il y a quand même un côté, reconstituer un espace ensemble, et que j'ai trouvé, donc, trouver malgré toutes ces contraintes un endroit où poser leur tête qui n'est pas un espace intime caché au regard comme on le pense, mais qui est totalement public, c'est dans la rue, mais qui démontre aussi la nécessité de repos et de sommeil publiquement, c'est-à-dire qui montre publiquement que parce que finalement l'image qu'on peut avoir, la pratique politique, c'est de faire bouger le migrant. C'est l'injonction du capital et de la nation, c'est de faire bouger le migrant. Et là, c'est le corps qui se pose et qui... Cette nécessité physique et psychique, constamment entravée par la police et l'État, signifie pour moi l'exclusion donc, de tout ce qui est une personne est en droit de jouir du repos. Donc le rôle de sommeil inquiétant, constamment, c'est-à-dire en plus, bon, si on est une femme, de manière encore plus forte, pour un enfant, contribue à rendre, à transformer, à faire effectivement, de donner un statut politique à l'étranger dans ce refus de ce droit qui n'est pas un droit civique qui est inscrit, mais qui est un droit absolument important. Donc, je me disais peut-être que la solidarité, c'était faire en sorte que chacun, chacune ait un droit de poser sa tête. Auria, quand tu parlais des esclaves qui s'enfuyaient, on sait que l'une des grandes choses importantes était d'avoir un endroit, à un moment donné, dans une maison, sur le chemin de l'Underground Railroad, où se poser. Où je pensais aussi sortir des communautés souffrantes, c'est-à-dire ce moment où on peut se retirer de ça et pouvoir échapper à tout ça dans le sommeil. Et je me disais, le sommeil, c'est aussi le rêve, quoi. Et donc, t'empêcher de dormir, c'est empêcher de rêver. C'est empêcher... Et dans les temps dystopiques dans lesquels nous vivons, hein, et bon, pour le sud global en plus, c'est refaire vivre l'utopie, c'est de pouvoir justement pouvoir réclamer d'avoir un endroit de poser sa tête, puisque dormir, échapper à un moment donné à tout ce qui se présente comme étant quelque chose d'incontournable. Donc, les choses qui m'ont été évoquées, c'est plutôt justement cette, au-delà de cette célébration de la mobilité, ou comme effectivement figure de l'abjection, ou comme célébration du cosmopolitisme, c'est de revenir à des choses très, très petites, toutes petites, d'une nécessité quotidienne, de se reposer et de pouvoir dormir en paix. Et donc, ce dormir en paix, de pouvoir justement, me semblait quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, parce que finalement, le politique serait avec des choses grandioses ou héroïques, et pas avec des choses justement qui sont absolument, qui devraient faire partie, qui sont partie de la vie, parce que justement, elles font de nous aussi cette personne pensante ou agissante. Parce que si vous êtes, on sait bien qu'une des moyens de torture, c'est d'empêcher de dormir. C'est un des grands. Outil de torture, c'est d'empêcher de dormir. Donc voilà les réflexions auxquelles me posait ça, parce que je pense souvent, quand je croise des jeunes hommes qui passent avec leur petit sac de plastique, je me demande où ils dorment et s'ils peuvent dormir en paix, tranquillement, s'ils ont un endroit où poser leur tête, et de pouvoir justement, dans ce moment-là où on plonge dans le sommeil, dit réparateur, et j'en rêve, et qu'on néglige ces moments comme si ces moments n'appartenaient pas à la vie politique, à la vie, donc pas à la vie seulement physique, mais à la nécessité de vivre et donc d'être et d'exister et d'agir, puisqu'on ne peut pas, agir si on est dans une constante épuisement. Et c'est, voilà, donc c'était vraiment les choses où il me semble, et c'est en évocation à plusieurs choses qui ont été dites cet après-midi, c'est-à-dire vraiment de sortir de figures imposées par un vocabulaire qui, faussement humanitaire, mais qui rend abstrait toutes les conditions de vie. Alors il faut les nourrir, tout ça, mais qui ne tient pas compte de choses qui sont parfois aussi, qui sont parfois extrêmement importantes. Et qui, ce n'est quand même pas sans raison qu'à Calais ou ailleurs, les gens construisaient tout de suite un petit refuge, un endroit où une porte se fermait pour être à l'intérieur, pour avoir un endroit où poser sa tête. Voilà.
Merci François, je ne peux pas m'empêcher de réagir. Il y a trois choses qui me viennent à l'esprit. C'est d'une part ce récit fondateur pour notre modernité qui est la métamorphose de Kafka. Un jour, Gregor Samsa se réveilla au sortir d'un rêve agité. Et d'une certaine manière, ne pas pouvoir dormir, c'est vivre constamment dans l'ombre de ce rêve agité. Et ceux qui nous viennent et ceux qui souffrent sont dans ce rêve agité constamment. Deuxième élément, c'est... alors là, dans l'empiricité la plus absolue... je travaille auprès de migrants dans la région PACA. J'avais accueilli des migrants dans mon village et l'un d'entre eux est décédé et le maire a refusé de m'accorder une concession. C'est même le repos éternel, etc. Et immédiatement on pense aux 30 000 morts, là, etc., etc. Et toute dernière chose, je crois que l'image que j'ai choisie est cette catégorie du grotesque que j'essayais d'interroger tout à l'heure a aussi partie prenante avec ce que tu esquisses ici. C'est-à-dire le corps grotesque, c'est un corps qui ne peut pas dormir, qui ne peut pas trouver l'équilibre entre ses parties, qui ne peut pas trouver l'harmonisation entre, au sein de son propre être. Et quand j'esquissais tout à l'heure une théorie du grotesque, c'était d'une certaine manière dans ce sens-là.
On peut aussi discuter, parce que je pense que quand même ce j'entends bien de formuler différemment ces questions pour ne pas devenir prisonnier derrière des mots qui semblent neutres ou plus humains et qui en fait masquent une certaine violence, Je pense que ça, c'est quelque chose qui a circulé cet après-midi.